Alors, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien en cette journée de fête nationale. Ce ne sera pas du tout le thème de mon message, donc c'est la dernière fois que je la mentionne. Mais je vais plutôt parler d'un passage dans l'évangile de Matthieu. Donc, on a fini notre série sur le sermon sur la montagne, mais c'est un passage du même évangile un peu plus loin. On a parlé beaucoup de l'éthique du royaume dans le sermon sur la montagne, donc la manière dont on se comporte en tant que chrétien. Maintenant, on va parler un peu plus du message du royaume, de ce que les disciples devaient annoncer. Je vais tout de suite lire le passage dans Matthieu 9, 35 jusqu'à 10 au verset 15. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, il prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis Jésus appela ses 12 disciples, et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le Péager. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite, et Judas d'Iscariot, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement? Donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Alors, c'est un passage que je trouve pas forcément évident et que j'aurais pas forcément choisi pour prêcher dessus s'il ne m'avait pas été indiqué. Et je trouve qu'il y a au moins deux manières dont on peut prendre ce passage qui pose des problèmes. Une première manière, c'est de prendre directement pour soi tout ce que Jésus dit aux apôtres, et ensuite de se mettre à culpabiliser, parce que je connais peu de chrétiens qui sont réellement partis sur les routes et qui ont ressuscité des morts et guéri des lépreux en trouvant leur nourriture là où on voulait bien la donner. C'est assez rare, je crois que Lucas Schilliger n'est pas dans la salle ce matin, c'est le seul que je connaisse dans ce cas. Mais... Donc, pour nous tous en général, si on prend ça directement, on a un problème. L'autre option, c'est de se dire, ah mais tiens, dans ce passage c'est intéressant, il y a une liste de noms. Et, oh, il n'y a pas mon nom dans la liste. Alors, c'est pratique, ça ne me concerne pas, donc je peux passer à la suite, et puis c'est une jolie histoire. Donc, c'est les deux attitudes que je pense qu'il faut qu'on essaye d'éviter, et pour essayer de faire un peu mieux que ça, ce que je proposerais, c'est d'essayer de se demander, d'une part, qu'est-ce que ce passage, qu'est-ce que ces ordres veulent dire à ce moment-là, dans ce moment d'histoire, dans ce moment du plan de Dieu, pour les personnes à qui c'était adressé, et dans un second temps, de se demander qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ou plutôt de faire un espèce de va-et-vient entre ces deux époques, en essayant de ne pas tout mélanger. Donc, ce passage parle de l'envoi en mission des 12 apôtres. La motivation pour cet envoi en mission, telle que Matthieu nous la présente, je trouve intéressant. c'est une motivation de compassion. C'est Jésus qui voit les foules, il a dit qu'il en eut compassion parce qu'elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc c'est la compassion face aux besoins des gens qui sont perdus, qui ne savent pas où aller, qu'il pousse à envoyer ses disciples. Et ce n'est pas un rêve de puissance ou une volonté de bâtir une méga church ou je ne sais quoi. Ce que je trouve déjà intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il les envoie faire? En fait, Jésus les envoie faire exactement la même chose que lui-même était en train de faire. Si on compare le verset 35 du chapitre 9 et au chapitre 10, les versets 7 et 8, donc au chapitre 9, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leur synagogue, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Et puis, d'autre part, au chapitre 10, il leur ordonne, en chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc, la mission des apôtres, c'est très exactement le prolongement de celle de Jésus. Et puis, il y a deux éléments qui sont mentionnés explicitement, guérir les malades et annoncer le royaume des cieux. Donc, déjà, une précision sur le royaume des cieux, on trouve à d'autres endroits dans l'évangile de Matthieu et surtout dans les autres évangiles l'expression royaume de Dieu. En fait, ça désigne exactement la même chose, simplement les Juifs essayaient d'éviter de prononcer trop souvent le nom de Dieu par respect, donc ils avaient tendance à utiliser un euphémisme, par exemple à dire les cieux pour en fait parler de Dieu, mais sans dire son nom. Donc, les deux notions sont la même. On peut interchanger les termes. Alors maintenant, il y a trois questions auxquelles je vais tenter de répondre par rapport à ce passage. Donc d'une part, c'est quoi le royaume des cieux? C'est quoi le royaume de Dieu? La deuxième, pourquoi est-ce que Jésus envoie ses disciples parler seulement à Israël? Il est très clair, n'entrez pas chez les païens, n'allez pas chez les samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues des maisons d'Israël. Et ça nous étonne ou ça nous choque un peu parce qu'on a l'habitude d'un évangile qui est pour tout le monde. Et là, on se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on n'a pas compris. Donc je vais essayer d'aborder ça aussi. Et puis, une troisième chose, Jésus envoie ses disciples prêcher que le royaume des cieux est proche. Et je vais essayer de préciser un petit peu ce que ça veut dire proche. Enfin, donc, je vais en tout cas parler un petit peu de ce sujet, je ne suis pas sûr que ça sera plus précis après qu'avant. Voilà. Donc, déjà pour cette notion de royaume de Dieu, je crois qu'il faut revenir un petit peu sur l'histoire d'Israël. Israël avait une mission. Israël devait obéir à Dieu, être fidèle à Dieu, être le peuple de Dieu, dont le but d'être une bénédiction pour toutes les nations et d'être un signe pour que toutes les nations du monde voient que Dieu est Dieu. Et je pense que tout le monde ici le sait, Israël avait vécu un échec. Israël n'avait pas été fidèle. Israël avait été déporté dans d'autres nations, puis était revenu sur sa terre, mais Israël n'avait jamais rempli parfaitement cette mission d'être un témoignage par sa fidélité. Et au temps de Jésus, Israël était sous l'autorité des Romains, donc un peuple païen, impur, donc tout ce qu'Israël avait tendance à mépriser. Donc, cette situation-là, ils rendaient conscient qu'ils étaient toujours dans une situation d'échec. Et puis, face à cette situation, beaucoup choisissaient une solution de repli, donc d'essayer de vivre une espèce de sainteté en se séparant de tous ceux qui n'étaient pas assez bien, en se tenant absolument à distance de tous les païens, même en rejetant aussi ceux du peuple d'Israël qui n'étaient pas assez bons, en particulier tous les pauvres, tous les bergers, etc., n'avaient pas l'instruction ou parfois pas la richesse pour bien suivre les règles de la loi. Donc ceux qui voulaient vraiment être absolument purs se tenaient à distance d'eux et ne voulaient surtout pas leur parler. D'ailleurs, quand Jésus parle des brebis perdues d'Israël, on pense souvent qu'il parle de ces gens qui font partie d'Israël, mais qui sont pauvres et tenus à l'écart de toute la vie religieuse, parce que pas assez bien pour les autres. Bref, tout ça fait que Israël n'était pas vraiment un témoignage pour les nations, et Israël était donc conscient d'être en échec dans sa mission, même si on peut penser que certains avaient un peu oublié en quoi elle consistait exactement. Ils savaient en tout cas que s'ils avaient été vraiment le peuple de Dieu fidèle, ils ne seraient pas sous la domination des Romains. Donc, ils attendaient une action de Dieu. Ils attendaient que Dieu agisse pour les sortir de cette situation et que Dieu vienne instaurer son règne, vienne montrer que c'était lui le chef et remettre Israël à sa juste place. Et je crois que les Israélites attendaient le royaume de Dieu, attendaient ce moment où Dieu va agir et manifester son règne, et que Jésus annonce que ce royaume de Dieu, cette intervention de Dieu s'est approchée. Avant de préciser un peu ça, pourquoi est-ce que les disciples doivent prêcher à Israël avant tout? Je crois que Jésus, Dieu, donne une dernière chance à Israël d'accomplir sa mission. Une partie de ce que Jésus a fait sur la terre, c'est un ministère de prophète, comme le faisaient les prophètes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire dire à Israël, voilà où vous en êtes, voilà où vous devriez aller, maintenant changez d'attitude, repentez-vous et commencez à vivre votre vocation. Et je crois que ça faisait partie, ça faisait partie du plan de Dieu de donner cette dernière chance à Israël de l'appeler encore une fois par Jésus lui-même à entrer dans sa vocation. Alors plus tard, voyons que Israël n'obéissait pas, n'entrait pas vraiment dans ce changement d'attitude. À la croix, Jésus a fait lui-même ce qu'Israël n'arrivait pas à faire. Jésus est mort pour les fautes de son peuple et pour les fautes de toutes les nations. Et par ce que Jésus a fait, toutes les nations ont pu entrer dans l'Alliance et ont pu voir qui était Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut nous-mêmes faire partie de ce plan. En fait, si je résume, Jésus a fait en sorte que l'entrée des nations dans le plan de Dieu ne dépende plus de la fidélité d'Israël, mais dépende de sa propre fidélité à lui. Parce que lui a été parfaitement fidèle là où Israël était en échec. Donc. Maintenant, encore cette notion de royaume de Dieu qui est proche. Alors, en fait, en grec, il y a une espèce d'ambiguïté, parce que ça dit plutôt « le royaume de Dieu s'est approché ». Et là, ce qui n'est pas très clair, c'est est-ce qu'il est vaguement plus proche que ce qu'il était avant, ou bien est-ce qu'il s'est approché, ça veut dire qu'il est là, qu'on peut le toucher, ou bien, c'est proche, mais proche comment? D'ailleurs, on vit dans cette même ambiguïté aujourd'hui, parce que à la fois, le royaume de Dieu est quelque chose dans lequel on entre quand on entre dans l'Église, quand on entre dans la relation avec Dieu, et à la fois, on attend encore le royaume de Dieu, on attend le moment où ça sera parfaitement là à la fin des temps. Mais ce qui est clair avec cette histoire du royaume de Dieu qui s'approche, c'est que le royaume de Dieu est proche parce que Jésus est là, parce que Dieu s'est fait proche de son peuple et que la restauration est possible par la présence de Jésus et par son ministère. Et le royaume de Dieu est en tout cas suffisamment proche pour produire des signes. Parce que le royaume de Dieu est proche en Jésus, alors qu'il se passe des choses pas normales, c'est-à-dire les malades qui sont guéris, les puissances du mal qui fuient, les démons qui sont chassés, et tout ça sont les signes que ce royaume de Dieu est là et produit ses effets. Donc, maintenant, cette mission des disciples, c'est donc d'annoncer le royaume de Dieu et aussi de le manifester par des signes. Et je crois qu'on peut voir l'envoi en mission des disciples un peu comme la fondation de l'Église, dans le sens où comme il y avait 12 tribus à la base d'Israël, Jésus choisit 12 apôtres. Donc c'est aussi un petit peu l'idée que Jésus donne un nouveau commencement au peuple de Dieu. Alors à ce moment-là, il s'agit de rassembler autour de lui les gens d'Israël pour donner un nouveau commencement. Mais notre vie de chrétien aujourd'hui est dans la lignée de cela, dans le sens où c'est ce groupe que Jésus a rassemblé autour de lui, qui a fondé l'Église, qui a prêché l'Évangile, qui est parvenu jusqu'à nous et qui fait que nous nous réunissons aujourd'hui et à bien d'autres moments. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que cet envoi des disciples, ce choix des disciples qui fondent l'Église est lié à l'annonce du royaume de Dieu. Donc, l'Église existe, entre autres, pour annoncer le royaume de Dieu. Alors, aujourd'hui, notre annonce est beaucoup plus du style « Jésus est Seigneur, Christ est ressuscité, il a vaincu la mort, Jésus est mort pour nos péchés ». Mais c'est pas que nous on a changé, c'est pas que nous on a changé le message et qu'on a côté de la plaque. C'était déjà le cas même dans les Actes des Apôtres, juste après la Pentecôte. On voit que la proclamation des apôtres est beaucoup plus centrée sur la personne de Jésus que de dire le royaume de Dieu, parce que je sais pas si vous avez déjà eu cette impression, mais souvent quand je lis la Bible et que je disais le royaume de Dieu, je me disais d'accord, mais c'est quoi? Donc, avec la mort de Jésus et sa résurrection, la notion de ce qu'est le royaume de Dieu s'est précisée. Et on sait que c'est essentiellement dans ce que Jésus a fait et dans sa personne, dans sa place auprès de Dieu aujourd'hui, que repose le cœur du message. Mais c'est quand même dans la même lignée que cet envoi en mission pour l'annonce du royaume. Ensuite, j'aimerais souligner qu'il y a trois axes par lesquels ce royaume de Dieu est censé se manifester. Donc, il y a cette proclamation et cette prédication, donc le fait de dire ce que Dieu a fait en Jésus, le fait de dire qui est Dieu, le fait de dire qu'on peut entrer dans ce royaume. Ensuite, le deuxième élément qui apparaît très clairement dans notre passage, c'est les miracles. Donc, les miracles qui sont en témoignage du fait que Dieu règne et que Dieu est tout-puissant et qu'il a tout pouvoir. Mais, d'ailleurs, en tout cas, d'après le contexte de ce passage, je crois qu'on devrait bien plus chercher les miracles pour témoigner comme signe de qui est Dieu que pour notre confort ou pire encore pour le spectacle. Et puis, je crois aussi que les miracles... Ici, sont très clairement liés à la prédication, donc c'est pas juste faire des miracles pour faire des miracles, mais c'est lié au reste de notre mission. Et puis, j'ai dit miracles parce que c'est clairement de ça qu'il s'agit ici, mais l'ordre qui consiste à guérir les malades, à annoncer le royaume, je crois que dans un sens, tous les missionnaires qui sont partis tenir des dispensaires et soigner des gens ont aussi à leur façon obéir à l'ordre de Dieu, en particulier quand ils ont à la fois soigné les corps et présenté l'évangile. Je crois qu'ils sont tout à fait aussi dans la mission que Jésus donnait, et que les miracles et les soins médicaux ne s'opposent pas, et que quand on a les moyens de faire par les soins, c'est tout à fait ok de le faire. Et puis, troisième point, qui n'est pas vraiment mentionné ici, mais avec lequel vous êtes maintenant familier, c'est le point de l'éthique, donc du comportement. C'est tout le sujet du sermon sur la montagne, de comment on se comporte quand on est chrétien. Et ça, très clairement, ça va aussi être un signe qui permet aux gens de voir que le royaume de Dieu est en tout cas proche. D'ailleurs, je vais relire dans le sermon sur la montagne, donc Matthieu 5, 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, notre manière de nous comporter doit être aussi un témoignage pour que tous les hommes voient qui est Dieu. Et je crois qu'on ne peut pas dissocier ces trois éléments. Je crois que si quelqu'un fait des miracles et même prêche l'évangile, mais a une éthique personnelle qui est pourrie, s'il est adultère ou qu'il s'en met plein les poches de manière malhonnête, alors le royaume de Dieu n'avance pas. Donc voilà, je pense au moins ces trois plans sur lesquels il faut jouer et puis essayer de faire au mieux. Et puis, je profite aussi de faire une remarque sur le sel de la terre. Qui est jeté dehors et foulé aux pieds lorsqu'il perd sa saveur. On a souvent tendance à prendre cette parole directement pour nous, mais je crois que dans le contexte du sermon sur la montagne où Jésus s'adresse à des juifs et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la mission d'Israël, je crois qu'en premier lieu, c'est un avertissement pour les Israélites qui l'écoutent de dire vous avez une mission et si vous ne remplissez pas du tout cette mission, alors votre peuple ne servira à rien et va être, va être jeté par terre et foulé aux pieds. Et quand on sait qu'environ 40 ans après le ministère de Jésus, le temple d'Israël, le temple a été détruit, Israël a été déporté, et il y a eu une grande guerre, beaucoup de massacres, etc. Je crois qu'on voit que c'est un avertissement qui était tout à fait sérieux. Donc, ouais, je crois que c'est important de aussi se rendre compte qu'il y a un contexte à certaines choses que Jésus dit, et puis que ça prend quand même un sens particulier. Alors, après, nous-mêmes, en tant qu'Église, prenons la suite du ministère de Jésus, qui lui-même a accompli est entré dans l'accomplissement de la mission d'Israël à la place d'Israël, ce qui veut dire qu'on est quand même dans une situation assez proche de celle d'Israël, et que si nous-mêmes, nous ne remplissons pas notre mission, ça peut aussi s'appliquer à nous. Avec une nuance qui est toute la notion de la grâce qui est manifeste depuis que Jésus est mort sur la croix. Donc je ne prendrai pas cette histoire de foulée aux pieds par rapport au salut, mais plus quand même comme un avertissement, c'est important de vivre ce qu'on est destiné à vivre en tant qu'Église. Bon, je vais conclure cette petite digression que j'ai fait un peu plus longue que prévu. Voilà. Donc, trois axes pour manifester le royaume, la proclamation, les miracles et l'éthique, le comportement. Maintenant, je vais encore revenir un peu sur les consignes pratiques que Jésus donne à ceux qui l'envoient. Il y a toute la notion de ne pas prendre de provisions et puis de, entre guillemets, manger chez l'habitant. Donc, c'est toute une idée de confiance en Dieu. Et je crois qu'on peut avoir confiance en Dieu quand on entre dans ses plans, qui pourvoira à ce dont on a besoin. A l'inverse, il y a l'idée de ne pas prendre de l'argent, de l'or ou de la monnaie dans la ceinture. Plus précisément, si on regarde en grec, c'est ne pas prendre de l'argent en direction de vos ceintures. Donc la ceinture, c'était l'endroit où on mettait l'argent à l'époque. Donc c'est un peu, ne prenez pas d'argent pour le mettre dans votre poche. Donc c'est pas juste, n'ayez pas de liquide avec vous, mais c'est, ne vous faites pas payer pour ce que vous êtes en train de faire pour vous enrichir. Et là, je crois que ces deux éléments nous donnent aussi une indication sur la gestion financière par rapport aux gens qui annoncent l'évangile, c'est-à-dire ceux qui annoncent l'évangile ne devraient pas mourir de faim, et nous qui croyons devrions les soutenir. Par contre, quelqu'un qui prétend annoncer l'évangile et qui s'enrichit à votre mesure, je ne sais pas si son message est juste, si sa foi est vraie, mais en tout cas sa façon de procéder n'est plus conforme à ce que Jésus dit. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu de malaise quand j'entends parler de faiseurs de miracles qui roulent en Cadillac, se déplacent en jet privé et on te regarde du corps. Je pense qu'il y a certaines limites qui sont dépassées. Voilà. Ensuite, il y a aussi une idée de ne pas s'acharner, c'est-à-dire quand les disciples vont dans une ville annoncer l'évangile et en quelque sorte fait le tour de la question et que les gens ne veulent pas les écouter, eh ben, ils ne restent pas pour essayer de mettre une montre pression jusqu'à que ça marche, mais ils partent et ils passent à autre chose. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut aussi retenir, qu'il y a un moment où c'est la responsabilité de celui qui nous écoute qui entre en jeu, et que c'est pas nous qui avons mal fait notre travail chaque fois que quelqu'un refuse. Ça peut. Bon. Avec, de nouveau, une petite nuance, c'est que là, dans le contexte particulier, le temps était court également, parce que Jésus savait très bien qu'il avait peu de temps avant que les autorités religieuses veuillent le réduire au silence et que la croix arrive, etc. Donc, le temps était court, mieux valait aller annoncer l'évangile du royaume à ceux qui n'avaient pas encore entendu que rester pour essayer de convaincre ceux qui sont contre. Aujourd'hui, on a peut-être un peu plus de temps, donc c'est pas un absolu d'annoncer notre message en 3 minutes, de demander oui, non, et puis de passer au suivant dès qu'on nous dit un non. Voilà. Après, petite question, à qui s'appliquent ces consignes? Parce que, d'un côté quand même, Jésus a choisi 12 apôtres. Il y avait toute une foule qui le suivait, il y avait toute une foule pour écouter le sermon sur la montagne, mais il y en a 12 qui l'envoient annoncer l'évangile et guérir les malades. Et assez clairement pour nous aujourd'hui, je ne suis pas Simon Pierre, Sylvain n'est pas Thomas, et j'espère bien que personne n'est Judas Iscariot. Donc, on peut se demander combien ça nous concerne ou pas. Donc je crois que les consignes précises de d'aller de lieu en lieu, de pas prendre de sandales, de pas prendre de bâton, etc. Ben, ça s'adresse aux apôtres dans la circonstance. Alors certains qui ont un ministère semblable peuvent s'en inspirer davantage, mais je crois pas que c'est le critère du bon chrétien d'aller annoncer l'évangile de cette manière-là. Par contre, on fait tous partie de cette Église que Jésus a mis en place en commençant par là, et la mission de l'Église en général est aussi la nôtre en particulier. Donc, manifester l'Évangile en essayant de faire passer le message, c'est aussi notre mission. Alors, on a des rôles différents et des places différentes, mais on peut quand même chacun se poser la question, comment est-ce que je participe à cette mission de l'Église qui est de faire connaître que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ et que Dieu règne et va régner par Jésus. Donc, on doit vraiment se poser aussi cette question pour nous-mêmes. Donc, voilà, j'arrive maintenant à quelques mots de conclusion ou de résumé. Donc, l'Église dont on fait tous partie existe aussi pour manifester le règne de Dieu et qu'il est présent en Jésus, et on doit chercher à le vivre. Donc, ensemble, nous pouvons proclamer son nom, essayer de vivre d'une manière conforme à l'éthique que Jésus enseigne et espérer la puissance de Dieu pour appuyer le message que nous transmettons. D'ailleurs, je me dis des fois que peut-être on verrait plus la puissance de Dieu si on était plus à jour sur l'annonce de l'Évangile et sur la manière dont on vit en tant que chrétien. Et je m'inclus complètement dans le dos parce que j'ai jamais participé au premier chef à une guérison ou à un miracle, donc je suis tout à fait là-dedans aussi. Et puis, je crois qu'il faut aussi voir la vie et la mission de l'Église comme un prolongement de l'œuvre du Christ, donc se dire, ce que Jésus a fait lui-même en personne présent sur terre il y a 2000 ans, il le continue présent dans l'Église, donc présent dans nos vies et par la manière dont nous vivons et dont nous parlons. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis je suppose qu'on se retrouve après.